Les marigots et les ruisseaux qui sillonnent la forêt de la région de Logoué-Ivindo au Gabon facilitent la progression dans la végétation dense et difficilement pénétrable. On y trouve, suspendus à des lianes et dissimulés par un épais feuillage, des termitières en forme de boule, dans lesquelles niche parfois une abeille sociale de la famille des trigones, Apotrigona nebulata. C'est l'orifice d'un tunnel de circulation d'un centimètre de diamètre environ qui révèle l'existence d'une ruche de cette espèce dans la termitière. Les abeilles trouvent dans cet habitat poreux, en pleine forêt, un microclimat tempéré, maintenu en permanence par les termites qui assurent à leur nid température et humidité constantes. Ces termites sont des Nasutithermes qu'on reconnaît facilement à la tête en forme de poire de leurs soldats. L'habitat des abeilles est préparé par certaines espèces d'oiseaux, dont ce pic, Campetera nivosa, qui niche dans la termitière après avoir creusé une cavité d'une dizaine de centimètres de diamètre. Les termites s'isolent des oiseaux en colmatant les brèches du nid avec des matériaux de construction. Le pangolin, Manis tricuspis, qui se nourrit de termites, peut aussi être à l'origine des cavités qui abriteront les abeilles. En effet, les apotrigones sont trop faibles pour creuser elles-mêmes leur nid. Elles utilisent toujours et obligatoirement une cavité préalable, témoignage d'une très longue et merveilleuse adaptation biologique. La ruche, une fois installée dans la termitière, les trigones vont à la recherche de leur nourriture. Elles la trouvent sur les fleurs de la forêt, mais ne négligent pas pour autant les plantes cultivées auprès des villages. Leur comportement est semblable en cela à celui de l'abeille domestique Apis mellifica. À l'instar de cette espèce, Apotrigona nebulata à gauche est un hyménoptère apidé. On remarque ici la similitude des têtes de ces deux abeilles et en particulier celle du clypeus, des pièces buccales, les mandibules, les maxilles, leurs palpes et surtout la langue qui permet aux abeilles d'aspirer facilement des liquides et principalement le nectar des fleurs. Les pattes postérieures des ouvrières des deux espèces sont largement dilatées, comme chez Apis mellifica. La patte arrière d'Apotrigona nebulata, ici à droite, présente un système pileux très développé et très spécialisé qui permet la récolte du pollen ou l'extraction des écailles de cire. L'aile postérieure s'accroche durant le vol à l'aile antérieure au moyen de petits crochets appelés amuli. Ceux de la trigone sont peu nombreux. Enfin, comme Apis mellifica, Apotrigona nebulata sécrète de la cire. Chez l'abeille domestique, la sécrétion s'effectue au niveau de plages bien individualisées, visibles sur certains sternites abdominaux et que l'on appelle miroirs. En revanche, chez la trigone, l'ouvrière et même le mâle sont susceptibles de sécréter de la cire, qui cette fois provient de certains tergites abdominaux. Comme les abeilles domestiques, les trigones ont aussi des gardiennes au seuil de leur nid. Elles sont âgées d'une quinzaine de jours. Apotrigona nebulata n'est pas agressive. Elle est dépourvue d'aiguillons, comme toutes les trigones. Pour sa défense, elle se borne à mordre les intrus qui voudraient s'introduire dans le tunnel de circulation. Et elle peut même boucher l'entrée du nid à l'aide de résine prélevée dans les réserves. Apotrigona nebulata est une des plus grandes pillardes de la forêt. Elle est capable de se ravitailler en lait condensé sucré dans les habitations. Elle entrepose immédiatement la rapine dans les réserves du nid. Elles peuvent aussi piller les nids d'autres espèces d'abeilles, ouverts soit par les hommes, soit par d'autres prédateurs. Ici, avec une fébrilité extrême, elle charge du pollen contenu dans un nid de Dactylurina staudingeri, ouvert expérimentalement. Elle récupère même de la cire. Des ouvrières nettoient la ruche. Elles éliminent en particulier tous les cocons vides après la naissance des imagos. Dans la termitière, la ruche est isolée par une épaisse paroi de résine extrêmement dure, pouvant atteindre 25 mm d'épaisseur. Elle a été progressivement mise en place par les abeilles. Des réserves de résine molle y sont souvent collées. Le nid de couvain est entouré de plusieurs enveloppes de cire anastomosée. Il est composé de plusieurs rayons hélicoïdaux horizontaux, reliés entre eux et aux enveloppes, par de petits piliers de cire qui donnent sa solidité à l'édifice. Le jeune couvain est reconnaissable à sa couleur foncée. Le vieux couvain est plus clair. Les cellules royales se distinguent par leur plus grande taille. À côté du couvain, dans des cellules beaucoup plus grandes, on trouve intimement mêlées des réserves de pollen et de miel liquide. L'extraction d'un miel pur est donc très difficile. Les ouvrières d'Apotrigona, dès le troisième jour de leur existence, participent aux travaux de construction. Elles grattent les piliers, les enveloppes et les cellules des larves âgées ayant filé leur cocon. Puis, elles déposent la cire récupérée sur les réserves. Cette activité de construction peut durer 3 semaines. Mais, en même temps, vers l'âge de 15 jours, les ouvrières commencent à butiner. Dès leur retour au nid, elles régurgitent leur récolte de nectar dans les cellules, puis repartent aussitôt. Leurs allers-retours sont très rapides, car, contrairement à Apis mellifica, elles n'effectuent aucune danse de recrutement. Grâce au concours de plusieurs abeilles, les outres à miel sont progressivement remplies. Elles sont alors fermées et le resteront jusqu'à leur utilisation ultérieure. Il peut arriver qu'une trigone dépose par erreur ses pelotes de pollen dans une cellule à couvain plus ou moins remplie de nourriture larvaire. Très rapidement, des ouvrières décèlent la faute. Aussitôt, elles reprennent le pollen sur leurs pattes et le rapportent vers les cellules qui lui sont destinées. La gelée nutritive est ensuite aspirée par plusieurs abeilles et éliminée. Enfin, la cellule est détruite. Chez Apotrigona, la partie de la ruche qui contient le miel et le pollen sert en même temps à emmagasiner la cire inutilisée. Les parois des cellules et les ponts qui les relient sont exagérément épaissis. Chez Apis mellifica, au contraire, les réserves de cire sont réparties sur toutes les cellules dont les bords sont épaissis en bourrelets. Elles passent donc facilement inaperçues. Les ruches d'Apotrigona nebulata sont constituées de la façon suivante. Les cellules à couvain sont construites de toutes pièces par les ouvrières qui utilisent soit des sécrétions de leur propre glande dorsale, soit de la cire récupérée dans différentes parties du nid ou lors de rapines aux dépens des nids d'abeilles voisins. Les cellules à couvain sont consolidées par des piliers de cire. Le couvain contient simultanément des œufs, des larves et des nymphes. L'épaisseur de la cellule qui les entoure diffère, car les ouvrières ont éliminé progressivement la cire au cours du développement de l'œuf à l'imago. Il ne reste donc autour de la nymphe que très peu de cire adhérente à la soie du cocon. La cellule est complètement détruite à la naissance de l'imago. La cire peut alors être réemployée immédiatement pour édifier de nouvelles cellules ou être mise en réserve sur les piliers des cellules à couvain qui s'épaississent ou sur les cellules du magasin de miel et de pollen en attendant sa réutilisation pour de nouvelles constructions de cellules. Entre le sixième et le douzième jour de leur vie, certaines abeilles construisent les cellules à couvain. Elles participent aussi à leur remplissage avant la ponte de la reine. Durant les travaux de construction et d'approvisionnement, la reine se promène seule dans les diverses parties du nid. Lorsqu'elle est au repos sur le jeune couvain, une cour de 4 ou 5 abeilles peut apparaître. En revanche, chez Apis mellifica, une cour se trouve en permanence autour de la reine. La construction des cellules à couvain peut être réalisée à partir de matériaux récupérés par les ouvrières sur des cellules proches, ou d'écailles cireuses extraites de leur tergite, ou de cire récupérée dans les réserves. Graduellement, par le dépôt de ces matériaux de différentes provenances, la cellule s'édifie jusqu'à ce qu'elle atteigne la profondeur nécessaire. Pour finir, quelques abeilles viennent parfaire le travail en régularisant l'intérieur de la cellule. Régulièrement, la reine visite les cellules en construction. Mais elle n'échange que de très rares palpations antennaires avec les ouvrières au travail. Puis, brusquement, elle devient très agitée. Elle se meut fébrilement autour des cellules vides, bat des ailes sans arrêt, bouscule tous les individus sur son passage. Les ouvrières se mettent alors à l'unisson de la reine. Leurs mouvements deviennent rapides et la reine provoque de nombreux échanges antennaires. Groupés autour d'une des cellules nouvellement construites, les ouvrières régurgitent alternativement de la nourriture larvaire. 10 minutes peuvent suffire au remplissage de la cellule. Parfois, l'opération dure plus longtemps. Il arrive en effet que certaines abeilles simulent une régurgitation, mais ne l'effectuent pas. Au cours du remplissage, l'énervement de la reine et des ouvrières atteint son paroxysme. La reine bouscule de nouveau les nourrices, procède à quelques échanges antennaires et visite la cellule. Puis, c'est la ponte qui dure, suivant les cas, de 3 à 15 secondes. La reine pondra successivement dans les cellules nouvellement construites au rythme d'un œuf toutes les 20 secondes environ. Enfin, elle se calme et fait sa toilette. Les cellules pourvues d'un œuf sont immédiatement operculées par une ouvrière, parfois deux. L'ouvrière prélève de la cire à proximité et rabat le haut des parois des cellules de manière à former un dôme. Lorsque la cellule est presque fermée, l'abeille prend appui sur les cellules voisines et bouche l'orifice qui se réduit de plus en plus. À ce stade d'achèvement, d'autres ouvrières viennent l'aider. Tout ce travail ne dure que 5 à 10 minutes. Lors de l'éclosion, les larves trouveront donc dans leurs cellules d'élevage la ration alimentaire nécessaire à leur développement. Tandis que chez Apis mellifica, les ouvrières nourrissent les larves tout au long de leur croissance. C'est là une des grandes différences biologiques entre ces deux espèces. La cellule qui contient la larve est operculée juste avant le tissage du cocon, c'est-à-dire une douzaine de jours avant la naissance de l'imago. Les trigones se différencient des apis également par le nombre limité et la courte durée des échanges antennaires et trophallactiques. Chez Apis mellifica, les échanges sont relativement longs et accompagnés de multiples attouchements antennaires ritualisés. Les différences de comportement entre ces deux espèces sont le reflet d'une castration ovarienne totale chez Apis et relative chez Apotrigona. Le développement larvaire des trigones est semblable à celui d'Apis mellifica. Après l'éclosion de l'œuf, la larve passera successivement par 5 stades de développement. Pour atteindre l'état de nymphe aux yeux clairs, puis de nymphe aux yeux noirs, et, après une trentaine de jours, l'état d'imago. À sa sortie, l'imago est blanchâtre. Le thorax va rapidement prendre sa couleur noire définitive. L'abdomen s'assombrira tout au long de l'existence de l'abeille. Jaune ambré vers le 6e jour, il sera noir vers le 30e. Lorsqu'un nid d'apotrigone est partiellement détruit par une ouverture accidentelle ou expérimentale, les butineuses affolées le fuient et les jeunes ouvrières commencent la reconstruction. De nombreux piliers de cire sont édifiés pour créer des ponts entre les différentes parties du nid. Plusieurs abeilles s'affairent au même travail. Si la population de la colonie n'est pas trop appauvrie par le traumatisme, toutes les parties essentielles du gîte sont reconstituées en même temps. Un involucre de cire est rebâti autour des cellules à couvain. Puis il est rattaché à la fois aux rayons, aux réserves voisines et à la nouvelle coque par de nombreux ligaments de cire et ainsi consolidé progressivement. Pendant toute cette période de reconstruction, le nid risque de subir les attaques de nombreuses pillardes. S'il en réchappe, il pourra être reconstruit en quelques jours et permettre ainsi à la ruche de se reconstituer.